journal. Bonsoir Hélène Philippe.
Bonsoir à tous. Après les mots, la voix du président, désormais candidat. Première vidéo de campagne d'Emmanuel Macron diffusée ce soir et qu'on décrypte dès le début de ce journal. Les parrainages sont désormais clos à 37 jours du premier tour. On aura la liste définitive des candidats lundi. Une campagne d'ores et déjà bousculée par la guerre en Ukraine, augmentée d'un risque nucléaire depuis ce matin et les tirs sur la plus grande centrale d'Europe, désormais aux mains des Russes. Le Monde condamne unanimement, irresponsable, accuse l'OTAN qui se refuse toutefois à toute intervention dans les airs et sur terre. Ce serait une déclaration de guerre. Nous serons aussi à Kiev avec nos envoyés spéciaux, à Pékin où démarrent les Jeux Olympiques ce soir. Et puis dans l'actualité encore, le président du Conseil exécutif corse réclame une commission d'enquête après l'agression d'Ivan Colonna. Et le choix culture du vendredi nous emmènera ce soir dans les archives de la BNF. L'entrée en campagne est tardive, mais visiblement très bien préparée. Après sa lettre aux Français publiée dans la presse régionale, Emmanuel Macron a donc dévoilé il y a à peine une heure une première vidéo de candidature. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Vidéo de 4 minutes dans laquelle le candidat n'hésite pas à tirer profit du costume de président.
Et ses adversaires ne vont pas manquer de dénoncer le mélange des genres. Le clip a été tourné hier à l'Élysée, on est même dans le bureau présidentiel.
Et donc j'ai dû ce matin parler au président Poutine longuement, puis au président Zelensky, essayer d'agir. Et dans le même temps, voilà, je dois soumettre ma candidature aux Françaises et aux Français.
Vous voyez, d'entrée, il se place au-dessus des autres. Lui est aux responsabilités. Mais il jure, encore une fois, que le débat aura lieu.
Mais je pense qu'il faut que, moi aussi, je puisse expliquer, convaincre, proposer, être attaqué, critiqué, contester, répondre à la controverse, m'y livrer moi-même.
La question est de savoir quand cela pourra arriver. Aucun débat télé, aucune interview programmée. Le seul qui l'interroge pour l'instant, c'est le réalisateur officiel.
Mais est-ce que c'est pas un peu plié ?
Non, pas du tout. Alors ça, détrompez-vous complètement. Les Françaises et les Français sentent tout. Et ils ne donnent pas leur confiance comme ça.
Rien n'est écrit, rien n'est joué, assure le chef de l'État qui lance donc une campagne en même temps, stature présidentielle et humilité.
Est-ce que dorénavant je peux vous appeler monsieur le candidat ?
Oui, bien sûr. Vous êtes là pour le candidat. Appelez-moi monsieur le candidat, il n'y a aucun problème.
Un candidat qui veut faire campagne sans intermédiaire, décrypte un membre de son équipe, sans autre émetteur que lui-même. Un épisode de cette série macronienne sera dévoilé tous les vendredis d'ici au premier tour. Bref, Emmanuel Macron est le héros de sa propre série.
Simon Le Baron, premier déplacement à lundi en Ile-de-France sur le thème de l'éducation. Un meeting à Marseille le week-end suivant est prévu s'il est maintenu parce que la situation internationale dicte aussi l'agenda. Et on avance chaque jour dans un monde plus incertain que la veille. Les Russes tiennent ce soir la plus grande centrale nucléaire d'Europe, Zaporijjia, au sud-est de l'Ukraine. 6 réacteurs qui peuvent fournir de l'électricité à quelque 4 millions de foyers. L'incendie provoqué par des tirs la nuit dernière a été maîtrisé. Les experts sont rassurants, il n'y a pas eu de fuite radioactive. Mais c'est énormément de stress pour ceux qui vivent autour. Bonsoir Delphine Evenou.
Bonsoir.
Vous avez réussi à joindre une habitante, une professeure de français, c'est un témoignage rare, hein, qui vit à Zaporijjia.
Oui, les liaisons, que ce soit par téléphone ou par internet, sont très difficiles avec Zaporijjia. Nous avons donc réussi à joindre Elena à l'instant. Elle vit dans un appartement avec ses parents, son fils de 20 ans, sa sœur et ses neveux. Elle est épuisée d'y n'avoir presque pas dormi depuis une semaine. Tendez bien l'oreille, la liaison est assez mauvaise.
Mais moi, je ne dors pas et je ne mange pas. J'ai peur. Pendant la guerre, l'atmosphère est terrible. Tout le monde a peur. Tout le monde est épuisé.
Elle n'a pas entendu de tir aujourd'hui, à part le bruit de cette sirène qui l'effraie. L'attaque de la centrale nucléaire voisine de Zaporijjia l'a beaucoup inquiétée, mais les autorités ont fait le nécessaire selon elle.
On a distribué les informations sur ce qu'il faut prendre, quels médicaments il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut boire, et ça arrive. Mais après, on nous a annoncé qu'il y a eu un incendie et maintenant, tout va bien. Il n'y a pas de radioactivité.
Et la professeure de français ne sait pas de quoi demain sera fait.
Je voudrais beaucoup partir, mais mon père ne veut pas. Et il y a un chien et un chat les enfants ne veulent pas quitter les animaux et il est trop difficile de prendre le train parce qu'il y a beaucoup de personnes à la gare.
Et cela fait maintenant 3 jours qu'Elena n'est pas sortie de son appartement.
On entend l'angoisse avec vous de la population Delphine face à cette situation sans précédent qui inquiète aussi les experts, comme le responsable de la CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, Bruno Chariron.
Cette situation, elle est plus que préoccupante, parce que sur une centrale nucléaire, il faut pouvoir garantir en permanence le refroidissement non seulement des cœurs de chacun des 6 réacteurs, mais aussi le refroidissement des piscines de chacun des 6 réacteurs dans lequel il y a du combustible irradié qui est hautement radioactif. Et si jamais, pour une raison ou pour une autre, un bombardement, l'incapacité pour les personnels à faire leur travail, si jamais il n'était plus possible de garantir ce refroidissement, on pourrait évidemment aller à une catastrophe nucléaire qui non seulement aurait des conséquences sur l'Ukraine, mais sur les pays voisins et peut-être sur l'ensemble de l'Europe. Donc c'est une situation qui est extrêmement préoccupante. On peut arriver à une véritable catastrophe nucléaire.
Bruno Chariron avec Nathalie Charbonnier pour l'Evite. Et l'Agence internationale de l'énergie atomique propose de se rendre en Ukraine pour négocier avec les Russes et les Ukrainiens et faire en sorte de garantir la sécurité des sites nucléaires. La centrale se trouve par ailleurs dans une zone, le sud-est de l'Ukraine, où la situation est particulièrement tendue. Omar Waman, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux dans le pays. Bonsoir Omar.
Situation, bonsoir Hélène.
Oui, situation critique à Mariupol notamment.
Oui, la situation à Mariupol est tout simplement catastrophique, Hélène. Les 400 000 habitants de cette ville portuaire sur la mer d'Azov, à l'est de l'Ukraine, sont totalement piégés, assiégés. Les combats sont d'une rare violence. Les bombardements incessants. Selon plusieurs sources à l'intérieur de la ville, l'électricité a été coupée, le chauffage également, et la population est à court de vivres. Les forces russes tentent de s'emparer de cette ville stratégique pour assurer une continuité territoriale entre les forces en provenance de Crimée et celle arrivée des territoires séparatistes du Donbass.
Omar Waman, vous êtes vous-même à Kiev avec Gilles Gallinaro, la capitale qui redoute toujours l'assaut. Et vous nous parlez aussi ce soir de Kherson qui est tombé hier et qui ressemble aujourd'hui à une prison.
Oui, Kherson, dans le sud de l'Ukraine, sous contrôle de Moscou, mais où les combats se poursuivent par endroits. Les habitants ne peuvent ni entrer ni sortir de la ville. Et signe du rejet de la présence russe par la population, les habitants refusent l'aide humanitaire que les soldats de l'armée russe tentent de distribuer. Kherson est donc en résistance, comme Kharkiv, où les bombardements sont de plus en plus violents sur cette ville de l'est du pays, qui est toujours ukrainienne, mais sous un déluge de feu russe. Et quant à la capitale, Kiev, elle vit au rythme des sirènes et des explosions et attend l'assaut des forces russes. Aujourd'hui encore, des volontaires ont creusé des tranchées et monté des barricades pour fortifier les barrages.
Omar Waman et Gilles Gallinaro en direct de Kiev. Merci à tous les deux. Vous le disiez, la population se prépare à un assaut russe, renforce les barrages et la population qui épaule l'armée régulière cherche à se fournir en équipement militaire, des casques, des gilets pare-balles. Une fondation de Kiev fait un travail de collecte depuis plusieurs jours. C'est le reportage de Vanessa Descouraux et Marc Garvenès.
La pièce se remplit à toute allure, les dons viennent de partout, de la nourriture, des médicaments, mais ce n'est pas ça qui est recherché par-dessus tout, ce sont les gilets pare-balles, les casques lourds. Les équipements militaires manquent dans cette ville qui pourtant se militarise chaque jour un peu plus. Ivan, juriste dans sa vie d'avant, a rejoint les volontaires des unités de défense territoriale.
On a été prêt à cette invasion, par exemple ça. Mon équipement, j'ai acheté à peu près 2 semaines.
Ici, c'est une fondation créée par un acteur ukrainien qui organise ses collectes. Des particuliers peuvent faire des dons, mais ce sont surtout des entrepreneurs, gros ou petits, ou même d'anciennes gloires du sport national, qui financent tous ces achats.
So let's go there and see also
Maria travaille pour cette fondation.
On peut voir ici des talkie-walkie, des batteries, des chargeurs, des lampes. Des drones sont là aussi. Les drones sont très recherchés, par exemple pour voir les convois russes qui avancent.
Pour la plupart, ces équipements viennent de Pologne, mais l'approvisionnement prend de plus en plus de temps, pas moins de 4 jours pour rejoindre Kiev.
Un reportage signé Vanessa Descoureaux. Et on le voit, les Ukrainiens ne luttent pas à armes égales avec les Russes. Des armes interdites seraient même utilisées. L'ambassadeur d'Ukraine en France, Vadim Omelchenko, s'alarme.
Ils tirent sur les villes des missiles balistiques. Ils utilisent des bombes à fragmentation interdites par toutes les conventions, mais aussi des bombes thermobariques qui sont aussi interdites. On considère que c'est un acte de terrorisme. Notre demande et notre exigence envers la communauté internationale, c'est de fermer immédiatement le ciel au-dessus de l'Ukraine. C'est indispensable pour sauver la vie de milliers de personnes, des femmes, des enfants, des citoyens d'Ukraine. Ce matin, dans la ville de Jytomyr, après un bombardement, la moitié d'une école a été soufflée. Le matin, les enfants étaient venus. Nous demandons et nous exigeons du pouvoir russe la création de corridors humanitaires pour que les gens puissent quitter les villes.
Mais malgré les appels des Ukrainiens, l'OTAN maintient sa pression. Elle n'interviendra pas en Ukraine, ni sur terre, ni dans les airs. Ce serait une déclaration de guerre. Vladimir Poutine, de son côté, a toujours la même conception du dialogue, ouvert à la discussion. Si toutes ses exigences sont satisfaites, c'est ce qu'il a répété aujourd'hui au chancelier allemand qu'il a eu au téléphone. Et la répression se renforce en Russie contre les voix dissidentes. On apprend ce soir que Facebook est bloqué dans tout le pays. Les députés ont voté une loi ce matin avec des peines jusqu'à 15 ans de prison pour la publication d'informations que Moscou considérerait mensongères. Le journal russe indépendant Novaya Gazeta, son rédacteur en chef récemment prix Nobel, obligé de supprimer déjà du contenu de ses sites. Et la BBC décide de retirer ses journalistes du pays, estimant que Moscou criminalise le journalisme indépendant. Le conflit, qui a aussi des conséquences économiques très concrètes. Les bourses ont vécu leur pire semaine depuis le début de la pandémie. Le CAC 40 a perdu près de 5% aujourd'hui. Les prix de l'énergie s'envolent. Ce ne sera pas indolore pour les Français, a reconnu la ministre Barbara Pompili. Le gouvernement travaille d'ailleurs à de nouveaux dispositifs de protection. En attendant, le carburant pèse de plus en plus sur le budget. Et cela a un impact sur la recherche d'emploi. Dans la Manche, on n'hésite plus à dire non à un travail situé trop loin de son domicile. Reportage Anthony Rimbaud.
Pour un job saisonnier à mi-temps, payé 600 euros environ par mois, cette chère bourgeoise devait prendre sa voiture une heure de transport chaque jour. Vu le prix à la pompe, elle a décliné la proposition.
D'habitude, je pense plutôt en temps de trajet. Là, c'est plus tellement en temps d'énergie que je calcule, mais aussi de me dire d'accord, si je gagne 600 euros par mois et que je dois déduire une centaine d'euros, c'est vraiment plus suffisant.
Auto, boulot, mais plus que jamais pas trop loin du dodo. Dans l'agence de travail temporaire Samsic à Saint-Lô, les candidats ont réduit le rayon de recherche, constate la responsable Christelle.
On partait plutôt sur 30 km. Aujourd'hui, on sent que les gens réduisent entre 10 et 20 km grand maximum pour justement limiter ces frais.
Et dans un département de la Manche en plein emploi ou quasiment selon les territoires où de nombreuses entreprises peinent à recruter, les candidats peuvent donc parfois fixer leurs conditions. À la MEF, la Maison de l'Emploi et de la Formation du Cotentin, Charlène Saucé pousse les entreprises à soigner les offres.
On voit de plus en plus d'entreprises qui mettent en place des avantages pour réduire les coûts liés aux déplacements.
Carte carburant, indemnité kilométrique, voiture de fonction, voilà quelques avantages proposés par certaines entreprises manchoises pour séduire. Chez les grands donneurs d'ordre, on met aussi en avant lors des entretiens d'embauche les services de transport en commun gratuits, comme à Oranolag, à une vingtaine de kilomètres de Cherbourg. 15 lignes de bus transportent les salariés du groupe et les sous-traitants.
Reportage France Bleu, Anthony Rimbaud. Le pouvoir d'achat, l'Ukraine au cœur de la campagne électorale. On évoquait Emmanuel Macron au début de ce journal. Le président, désormais candidat qui se met en scène. Et face à lui, Laurent Wauquiez a peut-être parlé un peu trop vite. Bonsoir Kathleen Comte.
Bonsoir.
Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes en déplacement aujourd'hui avec Valérie Pécresse à Chartres.
Il était là pour soutenir sa candidate. Finalement, Laurent Wauquiez l'a éclipsé. Dans un discours d'à peine 10 minutes, le soutien de Valérie Pécresse charge violemment Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron est le modèle d'un président de la République tout à la fois monarchique et dictateur.
Et Laurent Wauquiez ne s'arrête pas là.
Maintenant, dans cette campagne, faites attention, parce que tout est fait pour que vous n'ouvriez pas les yeux. Tout est fait pour que les Français ne puissent pas se poser les vrais diagnostics. Le Covid d'abord, l'Ukraine ensuite. Chacun de ces sujets sont des sujets fondamentaux, mais qui sont utilisés par ce président de la République avec un cynisme absolu.
Des propos qui rappellent ceux d'Éric Zemmour, le candidat d'extrême droite disait presque mot pour mot la même chose au même moment lors de sa visite au Salon de l'Agriculture. Des propos sur lesquels Laurent Wauquiez revient sur Twitter. Il retire le terme dictateur qu'il trouve inadapté, je cite, dans le contexte actuel. Enfin, des propos qui embarrassent Valérie Pécresse, la candidate LR qui cherche à être crédible sur le dossier ukrainien et à se distinguer de l'extrême droite, contredit Laurent Wauquiez dès le début de son discours. Le dictateur, c'est Poutine.
Je veux commencer ce discours en ayant une pensée pour nos frères d'Ukraine qui se battent avec héroïsme contre le pouvoir autoritaire du dictateur Vladimir Poutine.
Dans l'entourage de Valérie Pécresse, on cherche à minimiser l'incident. Les mots de Laurent Wauquiez ont dépassé sa pensée, nous dit-on. Il les a retirés. L'incident est clos.
Écho de campagne, encore à 37 jours du premier tour. Sandrine Rousseau exclue de la campagne de l'écologiste Yannick Jadot pour des propos étriants. Cette campagne rapportée par la presse. Le compte y est ou pas, la course au parrainage est terminée. La liste des candidats sera publiée lundi, le temps que le Conseil constitutionnel vérifie notamment que les parrainages proviennent bien de 30 départements différents. Et puis c'est pour son clip de campagne qu'Éric Zemmour est condamné aujourd'hui pour contrefaçon des droits d'auteur. Le candidat d'extrême droite va faire appel. La Corse sous tension, suspendue à l'état de santé d'Ivan Colonna après son agression. Le ferry bloqué au large de l'île par des manifestants depuis ce matin a finalement pu accoster à Ajaccio. Le président du Conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, demande de son côté la création d'une commission d'enquête.
Depuis la tentative d'assassinat qui s'est déroulée donc il y a un peu plus de 48 heures, nous avions la conviction que beaucoup de choses étaient troubles dans cette affaire. Cette conviction a été confortée au fil du temps par les éléments qui ont été communiqués, aussi bien sur la personnalité de l'agresseur que sur les facilités qu'il a manifestement rencontrées pour perpétrer son acte. Et enfin, avec les explications qui sont données aujourd'hui sur ce qu'aurait pu être sa motivation, manifestement cet homme était une grenade découpillée qui a explosé. Reste à savoir qui a dégoupillé la grenade et qui l'a instrumentalisée. Donc ces questions se posent. Nous n'avons aucune confiance dans l'autorité administrative et dans l'enquête administrative qui va être menée. Je constate que depuis 48 heures, aucun membre du gouvernement ne m'a appelé. Et nous savons aussi, parce que nous avons une triste expérience en Corse, des affaires enterrées ou étouffées, qu'il est difficile de faire confiance à la justice antiterroriste. Pour toutes ces raisons, nous demandons une commission d'enquête parlementaire indépendante, installée immédiatement, composée de parlementaires et d'élus de la collectivité de Corse.
Gilles Simeoni avec Théo Cobel, le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête hier. Et puis en bref, attendez-vous à des perturbations sur le trafic des trains dans le sud-ouest à partir de dimanche et jusqu'à mardi. Nouvelle grève des aiguilleurs de Nouvelle-Aquitaine pour les salaires. L'actualité fait l'histoire, on en a une conscience encore plus aiguë ces derniers jours. Le choix culture du vendredi nous emmène aujourd'hui dans un sous-sol rempli de trésor, celui de la Bibliothèque nationale de France. À Paris, au milieu des archives de presse, 44 kilomètres de rayonnage qu'Alexandra Hakoun a eu la chance de parcourir.
Un univers souterrain fait de couloirs à n'en plus finir. Chaque jour, au moins un exemplaire de toute publication parue en France passe par ici.
La première étape, c'est ici, un tri et l'estampillage en encre rouge. Maintenant, ça appartient à la BNF, ça appartient au pays.
Caroline Touret est la responsable du département droit, économie et politique en charge de la presse à la BNF.
Notre rôle, c'est de conserver tout ce qui a été publié, que ce soit à disposition des gens aujourd'hui ou des générations futures. Et c'est pour ça qu'on apporte le même soin au courant qu'à la presse ancienne.
Avec des trésors aujourd'hui inaccessibles au public, comme le tout premier journal français.
Vous voyez un format livre, hein, banal a priori. Et quand on ouvre, le recueil des gazettes de l'année 1631 dédié au roi. Donc la Gazette qui a été créée par Théophraste Renaudot et qui est considérée comme la première presse en France. Papier chiffon avec la trame bien visible, qui se conserve bien mieux que le papier de la presse du 19e, début 20e siècle.
Car depuis 1868, on est passé à la pâte mécanique à partir de bois, donc de lignine, qui jaunit et se fragilise. Voilà pourquoi ici, température et humidité sont surveillées comme le lait sur le feu.
Normalement, c'est entre 18 et 20 degrés. Là, vous voyez qu'à la sortie de l'armoire de clim, c'est 17,9. C'est très bien. L'hygrométrie entre 45 et 55%. Ça, c'est des conditions pour éviter à la fois le dessèchement du papier, mais aussi l'apparition des moisissures.
Surtout qu'à ce jour, seuls 6% des collections ont été numérisées.
Collection unique au monde dont on a aussi un aperçu grâce à la revue Retro News en kiosque et librairie chaque trimestre. Dans les coulisses des archives de presse de la BNF, cet reportage à écouter en longueur demain matin, juste avant le journal de 7h et juste avant de retourner au Salon de l'Agriculture, on regarde à quoi ressemble le ciel.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules thermiques, électriques ou hybrides, les experts Euromaster veillent chaque jour sur la sécurité des conducteurs.
Et c'est avec vous Sébastien Léas, bonsoir.
Bonsoir.
Encore des pluies à l'ouest et l'extrême sud-est demain.
Oui, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et le sud-ouest de la Corse garderont un temps instable avec des développements d'averses, même un peu de neige sur les hauteurs des 900 mètres d'altitude. Les régions de l'ouest seront elles encore concernées par la perturbation qui s'est lentement infiltrée par l'Atlantique. Les nuages seront encore imposants entre la Nouvelle-Aquitaine, l'ouest de l'Occitanie, la Normandie et les côtes des Hauts-de-France, avec un peu de pluie par endroits, notamment vers le Tarn, la Garonne, les Pyrénées-Atlantiques ou encore entre la Touraine et l'ouest parisien. Plus à l'est et sur le nord-est de la Corse, la journée s'annonce quand même largement ensoleillée, le soleil réussissant même à s'imposer l'après-midi entre l'Auvergne et Paris. Les éclaircies seront assez nettes, également en Bretagne et entre les départements de la Manche et de la Vendée. Les nuages pourront quand même parfois être porteurs d'averses. Et puis les températures seront en baisse, variant l'après-midi entre 8 et 15 degrés. À noter aussi que le vent va faiblir autour du golfe du Lion.
Bon, moi je retiens le soleil et pour dimanche.
Eh bien, pour dimanche, vous allez bien retenir, hein, puisque dimanche sera nettement plus ensoleillé. Les nuages et quelques averses font encore de la résistance sur la Bretagne, au sud de la Garonne et entre les Alpes du Sud et la Corse. Mais ce sont surtout le soleil et les belles éclaircies qui s'installeront sur le pays. Un temps ensoleillé qui devrait d'ailleurs persister jusqu'au milieu de la semaine prochaine, mais dans une ambiance qui va continuer de se rafraîchir. Les nuits vont progressivement devenir plus froides avec de plus en plus de gelées et également le retour de la bise. Pour dimanche après-midi, prévoyez 6 à 11 degrés sur la moitié nord et Auvergne-Rhône-Alpes et 9 à 14 degrés sur le sud-ouest et autour de la Méditerranée.
Merci beaucoup Sébastien Léas.